On va peut-être faire un petit point d'actualité puisque, évidemment, Notre-Dame-des-Landes revient au centre des débats dans les médias. Cette semaine, on en a beaucoup parlé. Alors, pour faire un petit point, bon, je ne vais pas être capable de retracer exactement tout ce qui s'est passé depuis une dizaine de jours. Concrètement, l'État menace de débuter les travaux de cet aéroport. Il y a eu, mercredi dernier, une audience à Nantes, au TGI de Nantes, un procès donc de familles qui vivent sur place, qui sont menacées d'expulsion. Le concessionnaire Vinci, le groupe Vinci, qui donc espère construire cet aéroport, cherche donc à les virer de leurs habitations. Verdict le 25 janvier, on n'est pas encore fixé. L'idée apparemment c'est de faire pression non pas sur les zadistes, hein, évidemment, qui attire l'attention, mais de s'en prendre aux personnes qui vivent là-bas depuis très longtemps, et notamment des agriculteurs qui exploitent encore des exploitations donc pour faire du lait, de la vache allaitante et également du maraîchage. Et en s'en prenant finalement à ces personnes qui sont là depuis très longtemps, ils espèrent évidemment créer une scission au sein de la résistance. Donc ce qui risque en fait, c'est qu'ils risquent d'être condamnés à évacuer les lieux sous astreinte allant jusqu'à 1000 euros par jour. Et évidemment, en passant, on leur promet de confisquer leurs habitations, leurs cheptels, leur matériel, etc. Alors évidemment, depuis l'annonce de ce procès, parce qu'il y avait déjà eu une audience en décembre qui avait été repoussée, pour cause de COP21 et de trêve des confiseurs, il y a eu samedi dernier, le 9 janvier à Nantes, une grande manif sur le périphérique nantais, où en gros il y a eu 450 tracteurs qui sont venus de toute la région, rejoints par 20 000 personnes en gros, qui ont bloqué pendant une dizaine d'heures la rocade nantaise. Certains ont voulu rester le soir même, ils sont fait expulser à coups de gaz lacrymogène. Donc le lendemain, il y a eu d'autres types d'actions, des opérations escargot en voiture dans toute la région de Nantes. Il y a eu évidemment des personnes arrêtées, leurs véhicules confisqués, je crois qu'il y a eu une vingtaine de gardes à vue. Et d'ailleurs, il y aura évidemment des procès en février concernant ces personnes donc, qui ont bloqué la circulation. Et notez que ce blocage, justement, cette opération de cette grande manif de blocage de samedi dernier, c'était organisé notamment par le collectif Copain 44, hein, dont nous allons parler tout de suite. Donc Copain, je rappelle, ça veut dire donc collectif de paysans indignés par le projet d'aéroport. Il y a eu évidemment dans la foulée des actions de solidarité dans toute la France, des rassemblements, des manifs, des actions de blocage diverses et variées. À Paris, mercredi par exemple, il y a eu un rassemblement devant le siège de Vinci à Ruelle Malmaison, dans 92. Voilà en gros pour la situation qui commence à chauffer une nouvelle fois autour de la ZAD Notre-Dame-des-Landes. Alors pour faire ensuite évidemment le lien avec ce qui se passe dans l'Est, c'est-à-dire à Bure.
Alors faut rappeler que... mais juste avant de parler de Bure, moi il me semblait qu'il y avait des recours devant la Cour européenne, que cette histoire de construction d'aéroport était plus d'actualité, en tout cas pour un moment. Donc qu'est-ce qu'il en est de ça?
Bon, en fait, c'est vrai qu'il y a eu une sorte de promesse, encore une fois, je ne sais pas qui peut encore les croire, de promesse du président Hollande en disant que tant que tous les recours n'auront pas été épuisés, c'est-à-dire a priori Cour de cassation, je ne suis même pas sûr que d'ailleurs le recours en Cour européenne des droits de l'homme soit considéré comme un recours pour le président français, tant que donc tous les recours n'aient pas été épuisés, il n'y aurait aucune opération d'expulsion et donc de démarrage des travaux. Maintenant, effectivement, tout ça est bien loin. Et le Premier ministre, Manuel Valls, a, il y a quelques mois encore, décrété que ça se ferait, donc l'aéroport se ferait. Et il avait déjà émis l'idée que ça, les travaux pourraient reprendre dès le mois de janvier. Donc évidemment, les gens sur place sont un peu furieux, parce que notamment... les plus citoyennistes qui pensaient encore qu'une promesse présidentielle pouvait servir à quelque chose. Donc il reste un petit peu dans cette position, dans cette posture, en disant mais finalement, On est en train de construire tout ça, donc de commencer à expulser les dernières personnes qui s'y trouvent, de tenter de faire une scission au sein de la résistance. Et c'est ce qui a un petit peu, c'est ce qui alimente un petit peu les manifestations et les blocages qui ont eu lieu récemment. Donc ensuite, moi je connais pas en gros tous les détails un petit peu des procédures qui sont encore en cours, mais effectivement il y a encore des procédures qui sont au stade de l'appel. Et donc en sachant qu'il y a évidemment un dernier recours en cassation, ça peut encore durer quelques mois. Mais le problème, comme dans tous ces grands projets d'aménagement, c'est que il y a des périodes de l'année où les travaux sont possibles et pas après. Donc là, apparemment, si ça se fait pas en janvier, il faudra qu'ils attendent encore 6 mois. C'est un petit peu les mêmes problèmes qu'il y avait eu au niveau du barrage de Sivens, où il fallait absolument, pareil, il y a un an, qu'il y ait des travaux qui commencent au mois de septembre, sinon c'était repoussé d'un an. Donc là, je pense que voilà, le rapport de force, il se crée comme ça. On a un concessionnaire, Vinci, ils attendent juste qu'on leur donne l'autorisation de bétonner. Et en face, des opposants qui joueront toutes les cartes, en fait. Alors, c'est la discussion qu'on va entendre tout à l'heure était assez intéressante, puisque à Bure, donc dans la Meuse, c'est donc un petit département de la région Lorraine, et là-bas, il y a 6 habitants au kilomètre carré, donc c'est vraiment une région sinistrée. Et c'est précisément parce que c'est une région très peuplée que le gouvernement a, depuis 1999, envisage donc de construire là-bas le fameux centre d'enfouissement, le centre de stockage souterrain en couche géologique profonde, hein, c'est le terme technocratique, pour stocker et y entreposer en fait tous les déchets nucléaires les plus dangereux. Parce que donc l'agence qui gère cette funeste aventure, ça s'appelle l'ANDRA, l'Agence nationale de gestion des déchets nucléaires, radioactifs, pardon, ce qui est la même chose. Donc l'ANDRA, en fait, gère déjà dans l'Aube, c'est-à-dire près de Troyes, à Soulaine, un immense centre de stockage pour les déchets les moins dangereux, c'est-à-dire ce qu'on appelle les déchets de faible activité et à vie courte. À Bure, autour de Bure, l'enjeu, c'est effectivement de se débarrasser des produits les plus dangereux, c'est-à-dire les produits de fission et notamment tous les produits issus du retraitement. Parce qu'en France, on retraite, c'est-à-dire tous les barreaux d'uranium usagés des centrales nucléaires, pour l'instant, on les met à La Hague, dans la Manche. Et l'objectif pour que la filière, ait les mains propres, selon elle, il faudrait évidemment gérer toute cette question des déchets les plus dangereux. Donc à Bure, pour l'instant, il y a eu beaucoup de débats publics, il y a eu des procédures d'enquête, de consultation, etc. Et là, on est quasiment au stade de l'autorisation. Donc pour l'instant, il y a aucune décision officielle pour dire que autour de Bure va se construire ce fameux centre de stockage. Le problème, c'est que depuis 15 ans, on nous parle de laboratoire. C'est-à-dire qu'en fait, la grande manipulation des pouvoirs publics, ça a été, pour l'instant, de ne parler que de recherche scientifique pour savoir si le sol argileux de la région pourrait convenir pour stocker toute cette merde, hein, disons-le. Donc pour l'instant, l'ANDRA a un laboratoire, enfin, ce qu'ils appellent laboratoire, dont ils se servent justement pour drainer énormément de projets liés au nucléaire et pour faire de la région une espèce de centre d'excellence de l'industrie nucléaire. Donc en fait, ils se servent en fait du laboratoire qui pour l'instant ne stocke rien pour permettre de dire à tout le monde aux alentours, maintenant qu'on a construit ce truc-là, maintenant qu'on a investi tant d'argent, faut savoir que chaque année, l'État balance 30 millions d'euros dans chacun des deux départements, Haute-Marne et la Meuse, pour finalement acheter tout le monde, c'est-à-dire agriculteurs, municipalités, entrepreneurs et même les personnes privées qui peuvent demander à se faire financer, de refaire leur garage ou un chemin pour jusqu'à leur maison. Donc voilà, l'enjeu à Bure, c'est effectivement que pour l'instant, il y a une résistance qui est assez parcellée pour l'instant, parce que c'est un département où il n'y a pas beaucoup de monde, qui est évidemment économiquement sinistré, comme beaucoup en France, mais là particulièrement. Donc la préfecture, c'est Bar-le-Duc. Et donc à Bure, ça fait des années que la résistance s'essouffle un petit peu. Et c'est vrai que cet été, l'organisation de ce camp, le campement qui s'est organisé pendant 10 jours au mois d'août, a été vraiment pour les locaux, pour les gens qui se battent depuis des années, une grande bouffée d'air pur, un regain un petit peu de soutien. Et c'est vrai qu'ils ont été ravis de voir tout ce monde qui débarquait chez eux. Il y a eu, je crois, en gros, 800 personnes pendant 10 jours. Et c'était vraiment une réussite. Alors, c'est sûr que dans le cadre de ce camp, beaucoup de discussions ont eu lieu. Il y a eu vraiment une vingtaine de rencontres très enrichissantes. Et là, ce qu'on vous propose, c'est justement de revenir sur une discussion qui a eu lieu sur la question foncière, parce qu'il faut bien savoir que tous ces grands projets d'aménagement, si les terrains ne sont pas disponibles, ben les aménageurs peuvent se rhabiller. Donc, entre Notre-Dame-des-Landes, qui est donc un bocage énorme, là où les surfaces concernées concernent en gros 1500 hectares, autour de Bure, c'est en gros 450 hectares, dont les aménageurs ont besoin pour que le projet se réalise. Donc, pour avoir ces terrains, il faut préempter, acheter, et donc avoir une politique foncière très ambitieuse, très agressive, et même déclencher... ce qu'on peut appeler du chantage auprès des populations pour leur faire comprendre que s'ils ne veulent pas partir, de toute façon ils seront expropriés. Et donc l'argent est une chose, mais il y a aussi beaucoup de pression pour que les personnes partent tout simplement et fassent confiance aux aménageurs pour que tout se passe bien. Donc c'était très intéressant de voir que des agriculteurs de la région de Nantes sont venus donc à Bure pour discuter de tout ça avec leurs collègues, leurs copains, leurs compères de lutte de la Meuse. Donc avant de lancer le débat, parce que c'est vrai que hors contexte c'est un peu difficile de rentrer dedans, on a sélectionné un petit peu des témoignages qui parlent tout seuls, mais il faut d'abord que j'essaye de vous donner quelques repères. Notamment, il y a pas mal de sigles ou de noms qui apparaissent dans les témoignages. Donc, par exemple, si vous entendez le terme de AGO, qui revient souvent, AGO, c'est donc Aéroport Grand Ouest, c'est le consortium créé par l'État pour que l'aéroport se fasse là-bas, donc État et Vinci. De la même manière, à Bure, CIGEO, c'est donc le nom du projet d'enfouissement des déchets, c'est le centre industriel de stockage géologique. Donc ça, c'est le nom du projet d'enfouissement qui est donc géré par l'ANDRA. Donc je rappelle, ANDRA, ANDRA, hein, Agence Nationale pour la Gestion des Déchets Radioactifs. On commence le premier extrait, qui dure en gros une quarantaine de minutes, par un bref résumé de la lutte de Notre-Dame-des-Landes par deux paysans donc, du collectif 44. On se retrouve juste après. À tout à l'heure.
Bon, je vais commencer par faire un petit historique de ce projet, parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas. C'est dans les années 60, donc c'est un projet encore plus ancien que le vôtre, et où ils ont décidé de faire un aéroport dans un bocage et pour remplacer celui de Nantes et en faire. C'était un truc immense, enfin, c'est deux pistes convergentes, ça s'étale sur presque 10 km de long et 2 km de large. Ça devait être il disait à cette époque-là, comment c'est le grand port là-bas, le Rotterdam,
ah oui.
Le Rotterdam aérien de l'Europe. Donc c'était des grosses ambitions. Et donc il y a eu à cette époque-là déjà de l'opposition, des associations de paysans qui se sont créées. Mais assez rapidement, ce projet-là s'est endormi. Ce projet s'est endormi suite à la crise du pétrole où ces grands paquebots aériens ne pouvaient plus être rentables, quoi. Par contre, le Conseil général, qui était porteur du projet, a continué à acheter des terres à mesure que ça se vendait pendant toutes ces années 80-90. Puis, en 2000, sur l'insistance de Hérault, Jean-Marc Hérault, que vous avez tous connu, qui était donc à l'époque maire de Nantes, Jospin a relancé le projet. Et comme par hasard, avec la même configuration, un truc énorme, 1800 hectares, Alors que n'importe quel aéroport de province, c'est 300, 400 hectares, 500 les plus gros. Et là, c'est 1800 hectares. Et donc, il relance ce projet. Donc, l'association de paysans qui avait été créée donc, dans les années 75-70 ont été relancées pour continuer la lutte contre ce projet. Plus d'autres associations de citoyens, ça s'appelle la CIPA. Et donc il y a eu tout un tas de procédures, de sondages pour voir si le sol était favorable à faire ça. Il y a eu des combats, on empêchait les foreuses de venir, enfin les paysans ont tout le temps été assez combatifs. Il faut dire qu'en Loire-Atlantique, il y a tout le temps eu, il y a eu beaucoup de combats sur le foncier dans les années 70-15. Et c'est le pays des paysans travailleurs de Bernard Lambert, qui était un grand leader syndical. C'est le département aussi où la première FDSEA qui a fait dissidence avec la FNSEA. Et il y a eu l'enquête d'utilité publique en 2006, et avec donc un début des travaux qui devait commencer donc en 2000. Enfin, ça a retardé un peu, mais ça devait être en 2010, et puis après ça a tardé en 2012. Et
2014.
Et là, donc, on arrive. Il y a eu différentes opérations. Par exemple, il y a eu des tracto-vélo, on allait en tracteur à Paris pour essayer de comment médiatiser cette lutte, quoi. Ça n'allait pas très très fort. Et il y a eu en 2009, c'est ça, oui, la même chose qu'ici, un camp climat, des gens qui sont venus s'installer commencer à s'installer sur ce qui est devenu la ZAD. Et qui est devenu maintenant un nom célèbre, puisqu'il est même dans le dictionnaire, les zadistes. et voilà, donc je peux te laisser suivre pour dire ce qu'est copain.
Ouais, donc en 2012, il y a eu l'opération César. Donc c'était la continuité. Alors il faut quand même dire que l'enquête d'utilité publique est défavorable au gouvernement. Hein, mais les enquêtes d'utilité publique, ça ne sert à rien, c'est comme tout le reste, hein, c'est balayé. Si le préfet décide que c'est bon quoi. Mais enfin, il faut quand même le souligner, la population n'était donc pas a priori favorable. En 2012, il y a eu l'opération César, une opération qui a quand même duré 6 mois d'occupation militaire de la zone. Et donc, les paysans et la société civile, mais surtout les paysans, ont dû prendre beaucoup plus de... se sont beaucoup plus investis dans la lutte, encore plus investis. Il fallait aider les zadistes, il fallait essayer de faire barrage à l'opération militaire, etc. Et donc, les organisations paysannes... C'est une opération militaire, donc de garde mobile et de CRS, pour virer les occupants de la zone, exproprier les gens qui avaient été expropriés, etc. Enfin, les expulser, et puis éventuellement commencer les travaux, quoi. Donc cette opération a enclenché donc des combats assez importants, avec des arrestations, etc. Donc les organisations paysannes se sont regroupées dans un collectif pour essayer de masquer un peu, pour pas être en première ligne, quoi, médiatiquement, directement, au lieu de dire c'est le GAB, c'est la CONF, c'est Terroir, les CIVAM, etc. On s'est dit, ben, c'est le copain qui sera en avant, et c'était un peu pour se protéger. Parce qu'évidemment, comme partout, ces organisations-là vivent de subsides gouvernemental à travers le département et la région, et donc il faut bien se protéger quelquefois pour pouvoir continuer à travailler, quoi.
Peut-être rappeler ce que signifie copain.
Donc le copain, c'est collectif, c'est le collectif des organisations.
L'organisation professionnelle agricole indignée par l'aéroport.
Et les grands projets, on peut rallonger.
Dans lequel il y a la Confédération paysanne, le GAB, donc les agriculteurs biologiques, le CIVAM.
Enfin les CIVAM.
Les CIVAM, oui. Et Terroir 44, qui est plus la vente directe.
Terroir 44, oui. Donc cette organisation-là s'est mise en place, enfin, c'est une organisation complètement informelle, hein. S'est mise en place, ça nous permet donc de discuter, ça nous a permis de nous rapprocher aussi des zadistes à travers des échanges un peu plus fructueux, parce que évidemment ça a été difficile au début, vous imaginez bien qu'ils n'ont pas été accueillis à bras ouverts comme ça du premier coup. Tout le monde ne les a pas tout de suite aimés et embrassés, bien sûr, hein, c'est clair. Mais je pense quand même que depuis 3 ans, du travail est fait. Et c'est de se regrouper ensemble, d'en discuter, de s'obliger un peu à se respecter, etc. Ça a permis quand même de nouer des liens plus profonds. Et je pense qu'il est durable maintenant dans cette lutte, parce que la lutte, bien sûr, n'est pas gagnée. Hein, on en est encore loin, quoi.
Oui, alors du coup...
Alors, au sujet du foncier, donc nous, on s'est fait aussi avoir hein, à la longue, hein, sur 40 ans. L'État, enfin le Conseil général est propriétaire de 800 hectares directement sur la zone et de 400 hectares un peu plus loin autour. Ces hectares-là sont passés à l'État, ont été donnés à l'État comme participation du Conseil général au projet de l'aéroport et l'État les a concédés à Vinci. Donc l'État est propriétaire des 1600, de 1000, un peu plus de 1000 hectares en direct, quoi, mais concédé à Vinci. 55 ans. 55 ans, pendant 55 ans, quand l'aéroport sera fait, il y a des accords, c'est très bien fait maintenant, comme quoi Vinci doit dégager tant de bénéfices tous les ans et par tous les moyens. Donc les moyens, c'est quand ça ne marche pas sur l'aéroport, c'est les contribuables qui payent. Voilà. C'est cette affaire-là. Donc méfiez-vous avec le nucléaire, ça coûte cher aussi. Hein. Alors du coup, cette lutte a fait que ça elle a pris... comme ils n'ont pas pu chasser les zadistes, donc des terres sont restées occupées. Et les paysans du copain ont aussi aidé à réoccuper d'autres terres. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, on occupe physiquement tous ensemble 220 hectares sur cette zone-là. Et parce que normalement, ces terres-là qui sont... on en occupe sur la zone chantier. Donc ça, c'est des zones... La zone chantier, c'est une zone où il n'y a pas de beaux précaires pour personne. Normalement, ça doit être des friches, quoi. Ça ne bouge plus. Là, on a réoccupé des hectares, une quarantaine d'hectares sur la zone chantier. Et en dehors de la zone chantier, on a occupé une ferme. Tout ce qui était hors de la zone chantier, c'était comme ici, c'était des beaux précaires, renouvelables tous les ans. Et c'est AGO, AGO donc c'est Aéroport du Grand Ouest, qui gérait ça, qui donnait les terres à qui il voulait pour un an, quoi. Et on a, avec cette lutte de réoccupation des sols, on a réussi à faire que AGO n'est plus directement celui qui loue les terres, c'est revenu par la Chambre d'agriculture et par secteur, tous les ans, il y a un débat pour savoir à qui vont aller ces fameuses terres. Et nos 100 et quelques hectares qu'on a, qui devraient normalement être gérés par la Chambre d'agriculture, on a réussi à les conserver. La Chambre d'agriculture ne s'en mêle pas, on s'en occupe nous-mêmes, quoi.
À laquelle les gens du mouvement lutte participent, il y a chaque année une carte qui est dressée par la Chambre d'agriculture et chaque année donc ils redistribuent les parcelles avec des conventions précaires aux paysans des alentours et nous on vient depuis le mouvement en disant cette terre-là, elle est prise en charge par le mouvement et donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui il y a 220 hectares sur les 1600 qui sont 220 hectares qui sont pris en charge pour le mouvement, 800 qui sont encore redistribués aux paysans autour de la zone, 400 qui sont cultivés encore par les paysans qui ont leur ferme à l'intérieur de la ZAD et qui sont allés à l'expropriation. Et ensuite, le reste, c'est le bâti, les routes et les friches, quoi. Mais disons que ça, c'est sûr qu'il y a un moment, un rapport de force qui s'est engagé et qui a fait que AGO, donc l'équivalent de l'ANDRA ici, a pas pu continuer à faire les redistributions comme il l'entendait, et étant entendu que sa manière de procéder aux redistributions de terres, c'était comme une manière de semer la zizanie entre les paysans, évidemment en allant voir un tel et pas l'autre et machin et tout ça. Donc aujourd'hui, ils peuvent plus faire ça. Les terres qui sont cultivées par le mouvement, elles représenteront la surface que le mouvement a la capacité de prendre en charge. Et évidemment, ce qui se passe, c'est, je pense, c'est à peu près comme partout ailleurs. Il y a des paysans qui cherchent à s'agrandir et qui se font la guerre les uns avec les autres. Mais il y a notamment à travers le collectif Copain, qui à un moment, Copain, ça a ouvert un espace dans le monde paysan qui a permis de dépasser les clivages syndicaux, de famille, etc. etc. et qui fait qu'aujourd'hui, il y a une force paysanne qui peut revendiquer un certain nombre de terres et leur usage avec les occupants. Et donc tenir un rapport de force à la fois face à la Chambre d'agriculture et évidemment face à la Géo quoi, et l'État derrière. Et vis-à-vis de la SAFER, puisqu'on parlait un peu de la SAFER tout à l'heure, leur position elle est moins ouvertement liée aux porteurs du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Par contre, il y a un certain nombre de terres qui se libèrent autour de la zone d'emprise du projet. Ces terres-là, AGEO essaye de les racheter de la même manière que l'ANDRA, ils essayent d'acheter des terres pour ensuite faire les échanges, tout ça ici. Et il y a une bataille qui a commencé à être menée il y a à peu près un an et demi de ça, sur l'achat d'une parcelle collée à la ZAD, quoi. Une bataille entre AGEO qui voulait acheter d'un côté... Et le mouvement d'opposition qui a créé avec toutes les composantes une société civile immobilière pour acheter des terres. Donc à un moment il y a eu un mouvement collectif à travers cette société civile pour racheter les terres à l'extérieur de la zone pour que AGEO ne puisse pas les acheter. Et on a bien cru que cet achat allait pouvoir avoir lieu, notamment parce qu'il y a pour tout un tas de raisons. Mais pour finir, la situation de vente aujourd'hui elle est bloquée. Et pour cette parcelle-là, et elle risque de l'être aussi pour toutes les parcelles qu'il y a autour de la zone.
Pour trois petites parcelles à la Paclay. En fait, il y avait 12 hectares en disponibilité là et on a eu la même réponse, c'est-à-dire que ça passe à la vente. On postule. On est les seuls acheteurs avec parce qu'évidemment on a toujours quelqu'un à mettre dessus puisqu'on a assez de copains paysans ou apiculteurs ou etc. pour occuper les parcelles. Et la réponse nous revient quelques semaines après en disant que ben non, en fin de compte, on va attendre de savoir qu'est-ce qui va se passer. Donc ça veut bien dire que la SAFER aussi travaille pour AGEO, bien sûr, mais qu'ils ne peuvent pas du coup non plus redonner les reventes directement à AGEO parce qu'il y a une pression quand même qui est là, grâce à la SCI, quoi.
Il y a eu une phase importante qui a permis à un moment aux paysans de sortir de l'isolement dans lequel AGEO essayait de les contraindre, quoi. C'est aussi qu'il y a eu la décision qui s'est prise, notamment à travers Copain, de dire c'est pas possible que la question du foncier et la redistribution des terres, elle se passe en catimini entre les porteurs du projet et les paysans isolés. Il faut qu'on crée les conditions pour réunir les paysans autour d'une table et que ça se discute. Et évidemment, à partir du moment où ça a été possible, ça a permis de neutraliser, en tout cas en partie, les opérations du côté des porteurs du projet pour diviser les gens, quoi. Et ça a été extrêmement important. Et c'est Copain qui l'a amené, quoi. Qui l'a amené en allant à la Chambre d'agriculture et en le portant comme une proposition à prendre en compte.
Je veux pas couper la présentation des luttes autres, enfin sur d'autres lieux, mais ce que j'aurais aimé moi ici sur le secteur, c'est demander aux agriculteurs qui sont présents comment depuis le début. Et comment actuellement se discute cette question du foncier au sein des syndicats agricoles et des organismes agricoles. Parce que je pense qu'en fait, il y a pour l'instant, on n'a pas suffisamment d'informations sur la manière dont ça se passe. Et je me retrouve complètement dans ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que les organismes agricoles en Meuse aussi, me semble-t-il, ont eu cette position de dire on n'est ni pour ni contre le projet CIGEO. Nous, notre travail, c'est de faire que les agriculteurs, en tant que professionnels, puissent un jour s'y retrouver, que le projet se fasse ou que le projet ne se fasse pas. Et en fait, je ne sais pas si au sein du milieu agricole, il y a des craintes particulières, il y a une adhésion à cette manière de réfléchir. Ou, voilà, j'aimerais savoir un peu comment ça se discute entre les agriculteurs et les organisations agricoles.
Les commissions de structure, j'ai l'impression qu'elles ne se réunissent plus. Avant, elles se réunissaient régulièrement pour des rétrocessions de terre. Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a plus de réunion. Des syndiqués, par ici, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Dans le canton, je crois que vous pouvez les compter sur les deux mains. Hein. Au niveau du canton. Hein. À moins que ça ait beaucoup évolué depuis que j'ai quitté le syndicalisme, mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait.
Donc, est-ce que ça veut dire, par exemple, que... les agriculteurs concernés par le projet, enfin les plus directement prises avec le projet, sont finalement très isolés. Mais je pense qu'il y a, il y a des discussions, il me semble qu'il doit y en avoir.
À partir du moment où il n'y a pas intervention du syndicat majoritaire, peut-être que si le syndicat majoritaire s'était présenté un petit peu sur le terrain en disant bon, il faut peut-être qu'on fasse un petit peu attention, il faut peut-être qu'on voit un petit peu plus les intérêts des paysans, peut-être qu'ils seraient fait des adhérents, j'en sais rien. Hein, parce qu'en général, un paysan, il adhère quand il a besoin de quelque chose. Voilà. Mais là, on n'a pas vu le syndicaliste se pointer. Hein. Pense pas.
C'est pas passé au CDCE, hein, les rachats par CIGEO, parce qu'on siège dans les CDCE, dans les fédés.
Alors les commissions départementales de consommation de l'espace agricole, en fait, ça touche surtout les projets de zones commerciales et pas, à ma connaissance, un projet comme celui-là. Enfin, moi, je mets en rapport ce projet avec ce que j'ai vécu, par exemple, pour la ligne TGV Est. C'est-à-dire que moi, je suis personne qualifiée pour la protection de la nature, entre guillemets, hein, c'est un bien grand mot, dans les commissions communales d'aménagement foncier, dans les commissions de remembrement. Et en fait, quand j'ai fait le remembrement d'Èvre, par exemple, qui était concerné par la ligne TGV Est, ça a été très clair et net dès le départ. Les agriculteurs s'étaient organisés en structure, alors formelle ou informelle, je ne sais pas, mais en tout cas pour défendre leurs intérêts. Et c'est véritablement cette structure qui en fait réfléchissait globalement pour l'ensemble des agriculteurs sur la commune et sur les communes concernées par la ligne TGV pour savoir comment les agriculteurs allaient pouvoir tirer leur épingle du jeu et retrouver des exploitations viables. Voilà, donc c'était les agriculteurs
étaient présents. Hein.
Voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le milieu agricole était très organisé et il était organisé pour la défense de ses intérêts. Donc il n'y avait pas de... Enfin, c'était... Alors, voilà, la question que je me pose, c'est est-ce que actuellement, s'il n'y a pas d'organisation, s'il n'y a pas de... si les agriculteurs ne sont pas épaulés par le syndicat majoritaire, est-ce qu'ils sont vraiment tout seuls? Est-ce qu'ils ont envie de se regrouper ou pas? Voilà, c'est une question. Est-ce que la Confédération paysanne, qui n'est pas non plus très présente sur le secteur, envisage de faire quelque chose? Comment ça se discute, puisqu'il y a des agriculteurs bio sur le secteur? Voilà, comment ça se discute au sein des organismes agricoles? Parce que c'est difficile pour des militants, quand on est extérieur au monde agricole, même quand on est d'ici et rural, d'avancer dans ce domaine s'il n'y a pas des perches qui sont tendues aussi par les agriculteurs locaux. Enfin, il me semble.
Juste, pour la Confédération paysanne, moi je suis des Vosges, donc c'est vrai que j'ai pas suivi ce dossier-là jusque-là. Simplement, la question du foncier, elle est... elle est gérable entre guillemets, enfin, à partir du moment où on arrive à avoir de la transparence, et on le voit bien jusque là, tout se fait dans l'opacité la plus complète, quoi. Et un travail syndical, ça pourrait être ça, quoi, essayer d'avoir un maximum d'informations, sachant que effectivement tout est entre guillemets verrouillé, noyauté par la FDSEA. Enfin, c'est eux qui détiennent les informations, puisqu'ils siègent au sein de la SAFER, ils sont majoritaires au sein de la SAFER, puisqu'ils siègent en CDOA, donc ces structures qui permettent de répartir le foncier à travers ce que tu disais tout à l'heure, le schéma des structures agricoles, qui aujourd'hui n'est plus départemental mais devient régional. Et moi, juste une info que j'ai là-dessus, puisque je participe aux réunions régionales sur le nouveau schéma des structures agricoles, c'est que la SAFER demande à ce que les agriculteurs qui auraient choisi d'abandonner leur terre ici puissent être à même niveau de priorité dans la possibilité de pouvoir réexploiter d'autres parcelles par ailleurs, à même niveau de priorité qu'un jeune qui s'installe ou qu'un jeune, une petite ferme qui souhaite s'agrandir ou autre, etc., quoi. Donc c'est vrai que c'est quand même des choses qui sont, je pense, réfléchis au fur et à mesure que les problèmes, au niveau de la SAFER ou autres, vont se dévoiler, quoi, entre guillemets, à partir du moment où les agriculteurs vont être impactés en termes de viabilité par le retrait de leur terre au profit de l'ANDRA. Bon, voilà, mais c'est vrai que la question foncière a toujours été très, très complexe par cette opacité-là, quoi. Et je pense que ce qui est à faire reconnaître, et pourquoi c'est important, enfin nous, Confédération Paysanne, on n'y arrivera pas tout seul, pourquoi c'est important d'avoir des forces citoyennes autour de ça, enfin je pense à des gens qui peuvent avoir nous apporter l'information pour pouvoir ensuite faire ce travail dans les schémas des structures.
Mais pour moi, l'ANDRA a pratiquement les terres dont elle a besoin. S'ils se sont empressés de faire paraître dans la presse qu'ils étaient propriétaires de 3000 hectares, c'est que ça commençait à leur suffire, pratiquement. Sinon, jusque-là, comme dit mon collègue tout à l'heure, il fallait carillonner pour avoir des renseignements. Mais maintenant, il y a eu un grand article dans la presse avec M. Baillet qui disait ouvertement les propriétaires de 3000 hectares, voilà. Alors qu'avant, ils n'auraient jamais entendu parler dans la presse. Tous les achats fonciers se sont faits en catémini, au cas par cas. Monsieur Hans allait cuisiner les paysans un par un.
Non, mais il y a la question de la propriété et la question du droit d'usage, quoi. Le droit d'usage, c'est le schéma des structures qui le définit et qui permet de...
Mais on a... Ouais. Qui a été établi en amont, il n'y a pas grand-chose à... Voilà.
Enfin, nous, on a été visiter 5-6 fermes, là, pour parce qu'on avait un peu de temps, puis pour essayer de motiver les gens à venir ce soir. Et on a plutôt l'impression que c'est que des gens qui sont esselés, que l'ANDRA a bien trompé, etc. Et que maintenant, et puis que personne ne s'occupe d'eux, quoi. Il n'y a pas de syndicat, il n'y a rien du tout. Les structures départementales, tout ça, ont sans doute été mis en veilleuse, puisque c'est l'ANDRA qui fait tout, a fait la SAFER, a fait la CDOA, a fait tout, c'est elle qui gère, c'est un état dans l'état ici. Et, ouais. et les pauvres paysans, on les divise tranquillement, on les monte les uns contre les autres, et personne n'est là pour les soutenir, essayer de leur remonter un peu le moral, ne serait-ce que leur remonter un peu le moral. Il ne faut pas demander qu'est-ce qui se passe, je crois qu'il va falloir aller les voir et puis essayer de faire quelque chose avec eux. Mais là, on est au plus bas quand même pour ces gens-là, quoi, ici. Hein. On est au plus bas.
Les acquisitions sont faites. Hein.
Ah non, mais ça, c'est pas grave. Hein. On peut encore lutter et puis cultiver des terres acquises par l'État. C'est pas un problème. On le fait chez nous, ça doit pouvoir se faire ailleurs et ça se fait sans doute ailleurs. Donc, il faut pas baisser les bras. Mais il faut les aider, ces gens-là. Ils sont esselés. Ils sont tout seuls, là, et personne ne les soutient. Surtout pas les syndicats, a priori, quoi, parce qu'il n'y en a pas.
On dit c'est esselé, je veux bien. Mais prenez le cas d'un agriculteur qui a accepté de partir à 30 km après avoir fait un AVC, après avoir été bousculé dans tous les sens par la personne de l'ANDRA. Quand elle part à 30 km, on lui donne l'équivalent de terre, entre guillemets, et on le laisse exploiter 60 hectares sur la zone, ou 70 hectares. Arrivé cette année, oh mince, au bout de 3 ans, on lui dit « Monsieur, c'est terminé, on reprend nos 60 hectares ». Le fameux agriculteur, il crie haro sur le bonnet aujourd'hui. Un petit peu, pas trop, parce que l'Andra lui a encore promis des choses que l'Andra ne lui a pas données.
Mais...
Non mais c'est des paysans, il y en a certains qui sont un petit peu coincés, parce qu'ils tiennent certains agriculteurs par des promesses qui ne sont encore pas réalisées.
Faut les soutenir d'autant plus.
Justement.
Faut les soutenir d'autant plus.
Mais
on leur a tendu un piège.
Oui, ah ben c'est un piège.
Et ils sont tombés dedans, comme beaucoup auraient tombé. Oui, et c'est pour ça qu'ils ont certainement besoin d'être soutenus et d'être accompagnés.
Non, mais on arrive à cette solution-là, quoi. Hein, parce qu'aujourd'hui, ils veulent commencer à récupérer des terres.
Alors ceux
qui les ont à disposition, parce que c'est gratuitement, c'est des baux précaires à l'année, enfin, ou des mises à disposition à l'année, mais c'est quand même gratuit. C'est vous et moi qui payez les impôts.
Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit par rapport aux paysans du coin. Quand on va parler avec les agriculteurs des villages de Bure et alentour, il y a quand même une grosse... les agriculteurs, ils ont l'air assez désespérés de pouvoir rester sur le long terme dans le coin. Malgré tout, et même s'il y en a beaucoup... Il y en a qui ont pu vendre leurs terres assez rapidement. Il y en a aussi beaucoup qui ont refusé longtemps de vendre leurs terres. Et on sait que l'Andra, même les chargés de communication de l'Andra, lorsqu'on fait la visite de l'Andra, quand on leur demande « qu'est-ce que vous faites des agriculteurs qui refusent de vendre leurs terres ?», les chargés de communication de l'Andra répondent « c'est l'expropriation ». Donc il n'y a pas de choix. Donc pour les agriculteurs, et c'est ce qui est vécu par de nombreux agriculteurs qui ont su résister difficilement, parce que ce n'est pas facile de résister face à l'Andra et depuis longtemps... Surtout quand on est très isolé, il y a des agriculteurs qui, après de nombreuses années à avoir résisté, ont la menace de dire soit vous acceptez notre offre avantageuse avec des terres en échange, soit c'est l'expropriation. Au bout d'un moment, il y a aussi quelque chose à comprendre d'accepter plutôt l'échange que l'expropriation, surtout quand on se sent complètement isolé. Après, moi, je vois plusieurs choses positives. C'est qu'il y a des agriculteurs qui sont très contents de cultiver dans le coin, ils sont très contents de vivre dans le coin, et ils veulent rester dans le coin. Et il y a une autre chose très importante, c'est qu'il y a des jeunes qui sont dans le coin, il y a beaucoup de jeunes qui reprennent les fermes de leurs parents dans le coin, que ce soit à Bure, que ce soit à Saudron, que ce soit à Mandrembarois, à Ribeaucourt, je connais moins. Et là, il y a des jeunes qui sont contents de travailler là et qui aménagent ici et qui veulent rester travailler dans le coin. Depuis 10 ans, sûrement qu'il y a des avis qui ont changé aussi parce que la lutte, elle est longue. Et pour des paysans qui sont isolés, c'est pas facile de tenir très longtemps, surtout quand on est isolé. Et là, tous les agriculteurs avec qui on parle, la première chose qu'ils disent, c'est « mais on est isolé ». Il n'y a personne avec qui parler. Dans notre village, on n'est que 3-4 agriculteurs. Là, on n'est que 2, là, on n'est que 5. Il y a très peu d'agriculteurs dans le village parce qu'il y a très peu d'habitants de manière générale. Et l'Andra, qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaye de dégager les habitants. À Bure, les habitants, on les dégage. Il y a nos voisins, ils déménagent. Il y a de nombreuses maisons qui sont abandonnées et où les gens déménagent. Les gens partent, en fait, dans le coin. Mais il y a des agriculteurs qui sont venus, qui sont ici et qui continuent de vivre ici. Et des jeunes... Excusez-moi, il y a quand même des jeunes qui sont dans le coin et qui veulent. Et là, c'est pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour la suite. Et je pense qu'il y a des jeunes qui sont contents de vivre dans le coin et c'est avec eux aussi qu'il faudrait essayer de créer quelque chose. Quoi. Bon. Les anciens qui sont contents de vivre ici et les jeunes qui sont contents de reprendre.
Je vais te dire comment je vois les choses. Aujourd'hui, face à l'Andra, il ne reste plus que le carré de Mandre. L'Andra commence seulement à attaquer, entre guillemets, Mandrembarois. Parce qu'il va lui falloir des terres pour élargir ses routes, pour faire la liaison entre les deux pôles. Hein. Mais le dernier point où toutes les acquisitions foncières ne sont pas faites, c'est Mandrembarois aujourd'hui, pour moi. Peut-être quelques-unes encore sur Saudron, hein, sur les points précis d'implantation, mais sur Bure, tout ça, c'est cuit. Maintenant, Mandre commence à bouger, parce qu'on vient leur chatouiller les doigts de pied. Quoi. Il y en a certains qui bougent. Mais là, ils vont avoir besoin de terrain. Et sur Mandre, ils ne les ont pas, les terrains, encore. Voilà. Il ne reste plus que ça, c'est le dernier carré pour moi.
Et ben justement,
c'est là qu'il faut s'implanter et, voilà. et contre-attaquer.
Comme disait Marcel Thébault, membre de l'ADK d'Entame-des-Landes, il n'y a pas besoin d'être nombreux, il faut un noyau dur. Et un noyau dur qui résiste, après ça peut amalgamer d'autres gens autour. Et là, si vous êtes en train de vous renvoyer la balle en disant lequel qui a profité le plus de l'Andra, c'est tout ça, c'est mort. Vous n'avez pas le choix, il faut vous unir.
Bien sûr.
Par rapport à ce qu'on pourrait imaginer, je pense que moi qui suis agriculteur, hors périmètre, là, la question que je me dis, quand on voit ça de loin, on se dit, est-ce que les agriculteurs qui subissent ça, est-ce qu'ils voient ça comme une opportunité ou pas? Apparemment, c'est pas, ils n'ont pas l'air de voir ça comme une opportunité. Et la manière de venir en appui Et par rapport à l'expérience que vous avez démontré, qu'en fait, le rôle des agriculteurs qui sont hors zone, oui, apparemment était hyper important. Alors ça, je pense que c'est une idée à retenir, c'est-à-dire que c'est aux gens qui sont en dehors de la zone à mobiliser. Je pense que ça n'est pas très très compliqué. Et par rapport à la question qui a été évoquée tout à l'heure des syndicats, moi je pense que le rapport de force, il se fait quand les gens se regroupent hors étiquette syndicale. Parce que dès qu'on met une étiquette syndicale, lui il va y aller, mais s'il sait que l'autre est de l'autre syndicat, il ne va pas y aller. Et en plus, dans des départements comme les nôtres, là quand on cite le syndicat majoritaire, c'est lui qui tient la chambre d'agriculture. Et quand on sait l'argent que touche l'agriculture en Meuse depuis 20 ans, je vois mal les élus de la Chambre bouger dans une affaire comme ça, moi. Ça, c'est clair et net, hein, l'Andra. Moi, j'étais... Il y a 20 ans, l'Andra prenait déjà en charge des cotisations pour les paysans en difficulté, les cotisations de la MSA. Alors, pour dire que l'Andra a investi chez les paysans depuis des années. Et en fait, je crois beaucoup plus au collectif. Et nous, on a fait l'expérience il y a quelques années quand on a eu la grève du lait. Il n'y a rien de plus paniquant pour les pouvoirs publics quand ils se trouvent face à des collectifs qui ne peuvent pas identifier, qui n'ont pas l'habitude de fréquenter, qui ne savent pas comment, dans quel sens on les caresse, qu'est-ce qu'on va pouvoir leur donner pour les amadouer. Le collectif, c'est tout le monde et ses personnes. Et là, le pouvoir, il est dans ces collectifs-là de paysans, étiquettes syndicales différentes, d'associations diverses. Et plus on rassemble, et le pouvoir, je le sens beaucoup plus sûr. L'étiquette syndicale aujourd'hui en agriculture, elle est trop... Où elle est achetée, où elle est inexistante, comme elle peut l'être ici ou comme ailleurs. Hein. Mais moi, c'est un peu l'idée que je me fais de l'avenir.
Non, je n'irai pas devant vous le caissier, des fusils en grenade, des grands boucliers, tout ça pour nous bloquer, quand nous n'avions pour nous que nos poings le bon droit, et puis quelques cailloux. D'abord on s'avançait en frappant dans les mains, il y en avait parmi eux de vraies têtes de gamins. Les regards s'affrontaient face à face de tout près, eux devaient la boucler, nous pas, et on chantait.
Allez les gars, combien vous paye pour faire ça? Allez les gars, combien vous paye pour faire ça? Combien ça vaut, quel est le prix de te faire détester ainsi par tous ces gens que tu connais pas, qui sans ça n'auraient rien comme toi? Tu sais, nous on n'est pas méchants, on ne condamne pas les enfants. On nous attaque, on se défend, et tant mieux si c'est toi qui prends. Allez les gars, combien vous paye pour faire ça? Allez les gars, combien vous paye pour faire ça? Pense tous ceux qui travaillent, qu'on va jamais dans la bataille, pendant que tu encaisses les cailloux, Marcillero ramasse les sous.
Avoue franchement que c'est quand même pas la vie, t'avais rêvé pour toi, cogner des gens pour faire des heures, t'aurais mieux fait de rester chômeur.
Allez les gars, combien vous paye pour faire ça? Allez les gars, combien vous paye pour faire ça? Je ne me fais guère d'illusions sur la portée de cette chanson. Je sais que tu vas pas hésiter dans 2 minutes à me castagner. Je sais que tu vas pas hésiter, t'es bien dressé, baratiné, mais au moins j'aurais essayé avant les bosses de te causer. Allez les gars, combien vous paye pour faire ça? Allez les gars, combien vous paye pour faire ça? Allez les gars, combien vous paye pour faire ça? Allez les gars, combien vous paye pour faire ça? Allez les gars, combien vous paye?
Voilà, c'était une chanson interprétée cet été sur le camp de Bure par une des chorales joyeuses et improvisées hein, qui s'est constituée sur place dans la Meuse. Donc cet été au mois d'août pour le camp, le campement qui s'est monté dans la région de Bure pour soutenir notamment la lutte contre ce projet de caverne. d'enfouissement des déchets nucléaires. Vous êtes donc toujours sur Radio Libertaire. Les amis d'Orwell, ce soir, vous proposent un regard croisé sur les expériences de lutte entre Notre-Dame-des-Landes et Bure. Vous avez pu donc écouter le premier extrait. Vous avez dû vous rendre compte qu'on parle beaucoup de terres agricoles, de fonciers, ce que c'est évidemment le nerf de la guerre quand on veut construire un méga projet d'aménagement pour convaincre les populations de s'y joindre et d'acquiescer des deux mains. Il faut évidemment pour cela acquérir énormément de terres, de terrains, et dans des régions comme celle de Bure, où il n'y a pas beaucoup d'habitants au kilomètre carré, il y a évidemment encore énormément d'agriculture. Et l'enjeu, évidemment, c'est de fédérer dans la lutte les agriculteurs, les habitants, les résistants, les zadistes, un petit peu toutes ces populations. Et en agglomérant un petit peu toutes ces revendications, on se rend compte que se battre sur les enjeux fonciers sont primordiaux. On va poursuivre, évidemment, avec un deuxième extrait qui sera un peu plus court.
Et peut-être juste avant de passer l'extrait, est-ce que ça fonctionne? Alors, quand vous êtes allé sur le camp, c'était au mois de juillet l'année dernière, c'est ça, à Bure?
Alors, ça a commencé fin juillet, ouais, ça a duré jusqu'au 10 août.
Est-ce que vous avez réussi vraiment à rentrer en contact avec les habitants? Est-ce qu'il y a, voilà, est-ce que ça a fonctionné ce...
C'est précisément ce qui a été tenté, et je pense que ça a été une réussite. À un moment dans les discussions, c'est beaucoup revenu, parce que Notre-Dame-des-Landes, ça fait quand même depuis 2007 hein, que la lutte existe, presque 10 ans. Il y a eu là-bas, en 2009, un camp Action Climat, sur le même schéma en fait, un camp autogéré qui est venu, qui a débarqué, et qui a servi justement d'appel d'air pour que des personnes complètement hors zone, hors sol, qui étaient plutôt des urbains, ils viennent s'installer. Donc occupent des maisons vides, construisent des cabanes, et s'approprient le territoire pour en faire leur lieu de vie. Donc en fait, cet appel d'air du camp, c'est un petit peu ce qui a été essayé cet été à Bure. Les personnes là-bas sur place sont très essoufflées. Il y a quand même il y a des collectifs historiques qui, depuis le milieu des années 90, hein, ça fait donc 20 ans. Le travail qui a été fait par les personnes comme nous, hein, qui ne sommes pas de la région, ça a été évidemment un travail de longue haleine, puisqu'on s'y est pris en gros un an avant. Et 6 mois avant, en fait, on a décidé d'organiser les réunions de coordination de ce campement sur place, c'est-à-dire à Bure. Alors, l'avantage de Bure, c'est que c'est un village minuscule, il y a 80 habitants, je crois. C'est que depuis maintenant 10 ans, il y a une maison qui a été achetée par les opposants, par un groupe de résistants, qui a donc un lieu fixe au centre du village. Une grande maison avec pas mal de place pour pouvoir loger. On peut loger, je pense, à 40-50 personnes. Donc évidemment, c'est aussi un lieu autogéré avec des personnes qui habitent sur place. Il y a comme une espèce d'occupation tournante. Et c'était vraiment l'idée, c'était d'aller sur place et pendant 6 mois, de ne pas débarquer comme ça avec nos pratiques, nos méthodes et nos idéologies, mais c'est effectivement de faire un travail de fond pour aller voir les gens autour, pour leur expliquer justement que d'une part une ZAD n'allait pas s'installer immédiatement tout de suite comme à Notre-Dame-des-Landes, et d'ailleurs immédiatement dès que les premières informations sur la tenue de ce camp ont été rendus publics dans la presse, ça a été évidemment le leitmotiv des journalistes, c'était de dire une ZAD bientôt à Bure. Et l'idée, nous, c'était évidemment d'arriver et d'aller discuter avec les gens. Et je pense que ça a servi beaucoup pour que, d'une part, les associations locales, les résistants locaux se sentent moins seuls, et que les populations qui avaient du mal, justement, à s'investir dans la lutte, en disant, mais... en fait, on n'y arrivera pas, l'Andra c'est l'État, ce sera perdu d'avance. ça a aidé beaucoup de gens à sortir un petit peu de leur réserve, parce que quand tu discutes avec les gens foncièrement, tout le monde est contre en fait. Mais qui va accepter que près de leur baraque, près de leur prairie, leur cours d'eau, va s'installer une poubelle nucléaire qui va durer 100 000 ans, quoi. Donc concrètement, personne n'est pour, mais tout le monde ferme sa gueule. Et tout le monde, quelque part, est acheté. C'est pour ça qu'on dit souvent que voilà, l'objectif de l'ANDRA, c'est d'investir non seulement les espaces, les terres, mais aussi les esprits, pour que tout le monde, finalement, accepte bon an mal an ce projet monstrueux, quoi. Donc soit il reste, et il faut bien qu'il trouve des contreparties, ou soit il se barre.
Un peu comme la Hague, ça me fait penser à...
Ouais, tout à fait. Ouais. Donc c'est vrai que le travail qui a été fait, bon, on ne peut pas dire que c'était uniquement les personnes qui étaient impliquées dans le camp VMC, c'était aussi toute cette énergie entre les
VMC,
gens.
VMC, c'est quoi ?
Alors VMC, c'était une petite blague qui a été émise au mois de novembre, il y a un an, quand le camp se préparait. C'était au moment de la mort de Christophe de Margerie, le patron de Total. Souvenez-vous, il est mort en fait à Moscou, sur un aéroport. Donc son avion a percuté une déneigeuse dans l'aéroport en décollant. Et l'ouvrier, en fait, le manutentionnaire qui conduisait cette déneigeuse s'appelait Vladimir Martinenko. Et d'ailleurs, je pense qu'il est encore en prison, ce pauvre homme, en Russie. Et donc voilà, quelque part en mémoire, en honneur à ce personnage complètement anonyme, le camp s'est appelé comme ça. Voilà, et d'ailleurs, ça a fait des chagrins évidemment de la presse en faisant une allusion que voilà, que nous nous réjouissions de la mort du patron de Total. Ce qui n'est pas forcément faux, mais ce n'était pas non plus le but du jeu. Donc voilà l'histoire de ce campement. Et c'était évidemment intéressant de pouvoir convaincre justement des personnes de la région de Nantes de venir s'exprimer pour donner du courage aux exploitants agricoles là-bas sur place à Bure, pour leur faire comprendre que même s'ils sont isolés, même s'ils ont l'impression d'avoir en face une montagne, pas la peine d'être syndiqué, pas la peine d'avoir eux-mêmes des expériences de lutte, mais autant voilà, se rassembler, et que toutes les personnes qui sont sur place et qui sont contre, il suffit de se réunir, d'avoir des stratégies communes, et ça peut marcher. Et c'était un peu le but de ce campement et des discussions qui ont eu lieu. Donc on va terminer là-dessus, puisqu'il y a encore un petit extrait à vous montrer. Il était justement question dans la première intervention justement de ne pas simplement conjuguer les efforts des habitants et des gens qui sont sur place, concernés donc par le projet d'aménagement, mais d'aller voir des agriculteurs qui sont hors de la zone pour créer réellement une force beaucoup plus importante. Donc dernier extrait de cette discussion qui a lieu donc cet été sur le camp de VMC pendant 20 minutes, et vous allez découvrir une voix que vous connaissez très bien. Et tout à l'heure.
Juste dire par rapport au hors zone en fait, parce que le hors zone ici il est très relatif, parce que on a quand même en octobre dernier on est allé au premier salon du nucléaire à Paris en fait. Et à l'entrée du salon, ils distribuaient une carte avec une cible de 80 km de rayon, dont le centre était Bure. Et en haut, il y avait les logos du GIP Meuse, il y avait celui du Conseil Général, il y avait celui de l'ANDRA. Et c'était écrit en gros « Pour le développement d'un pôle de compétences du nucléaire dans la Meuse, Haute-Marne ». Et donc, ce qui veut dire que le hors-zone... Il devient, enfin là c'est tout le département qui est touché en fait par le projet d'implantation de l'industrie nucléaire. Parce que maintenant qu'ils ont trouvé un endroit, ça va être l'endroit où ils vont tout concentrer en fait. Donc ça veut dire que potentiellement on s'interroge pourquoi l'ANDRA continue de gonfler sa réserve foncière. Peut-être parce qu'il n'y a pas que le projet là en fait. Parce que peut-être qu'il y a d'autres choses qui vont venir après autour. Et donc ça mérite quand même de s'y intéresser très fortement, parce que cette carte, elle est très inquiétante. Enfin, ça, si on regarde, la cible, elle dépasse sur les Vosges et la Haute-Marne, en fait.
Il faut soutenir les gens qui veulent élargir. Il faut
Et il faut nous aussi en Loire-Atlantique, hein, on est nombreux, on a plein de paysans, on a plein d'habitants, tout ça. Mais quand il y a eu la manif de réoccupation, on a dit il faut pas hésiter, il faut élargir. On a appelé au secours toute la France et toute la France est venue. Et on a mis 40 à 50 000 personnes sur le terrain. En deux jours, des cabanes étaient reconstruites, etc. Ça s'est fait avec tout le monde. Il ne faut pas avoir peur de son voisin, et il ne faut pas avoir peur du voisin, etc. Moi, je pense qu'il faut élargir, et il faut surtout penser aux gens qui sont déjà impactés, qui moralement souffrent beaucoup, et il faut arriver à les récupérer, les remettre dans le giron et les aider. Et c'est comme ça que la lutte pourra redémarrer. Et là, il y a un peu de temps, puisque l'amendement a été rejeté par le Conseil constitutionnel, il y a un peu de temps pour se mettre au boulot. C'est peut-être le moment de se dire, ça y est, on y va, quoi.
En fait, il faudrait que cette question du foncier, elle soit, qu'on s'en empare beaucoup plus collectivement, quoi. Qu'il y ait un vrai travail de veille, de cartographie de la situation actuelle, de où sont les terres que l'Andra a rachetées, les terres mises en réserve, quelles terres restent encore en propriété des exploitants agricoles ou d'autres propriétaires. Enfin, il faudrait vraiment qu'on ait une vue globale de ce processus-là dont on a parlé, ce qui nous permettrait aussi, et ça c'est le deuxième point, mais le plus important en fait, d'aller voir en fait les gens, les gens qui sont ici, les exploitants qui sont un peu isolés, parce que effectivement, du côté de l'Andra, il y a le fameux Emmanuel Hans. Il a tous les moyens de la mafia nucléaire derrière lui pour aller démarcher les gens et jouer entre le rôle du bon négociateur, je te promets des super offres, et mauvais négociateur, attention pour l'expropriation, quoi. Et de l'autre côté, en fait, il y a tout ce truc à faire localement, quoi, d'aller voir les gens également comme il le fait, en fait, pour comprendre leur situation, en fait, et comprendre la situation, technique, économique de leurs exploitations. Pouvoir créer du lien en fait entre toutes ces personnes qui sont un petit peu qui semblent un petit peu isolées, quoi. Et voilà, en tout cas, il y a de la place pour vraiment continuer de penser ça. Enfin, c'est aussi après le campement, et voilà, ça fait partie des choses qui doivent continuer d'être mises en place, quoi. C'est clair et net pour pouvoir avancer dans cette lutte.
Il faut arrêter d'artificialiser les sols, hein. Il faut arrêter. Il y a des friches industrielles partout, et il y a des tas de projets qui ne servent à rien, des tas de routes, d'aéroports. On a 150 aéroports en France, c'est combien d'hectares qui sont tous en plus à la charge du contribuable? Il faut arrêter de dire qu'il y a des soldes disponibles. Moi, je dis qu'ici, la lutte n'allait pas contre pour savoir si les agriculteurs vont être bien dédommagés, machin. La lutte allait qu'on ne veut pas de la poubelle, on ne veut pas toute cette merde-là. On veut garder nos terres pour faire de l'agriculture nourricière. C'est ça le problème, c'est pas autre chose.
Je pense que c'est une question importante de dire, là, parce qu'on l'entend aujourd'hui, dans la profession agricole, on dit qu'il y a l'équivalent, je crois, d'un département qui disparaît tous les 10 ans en termes de terres agricoles. Mais si on donnait une information claire là-dessus, et que les responsables agricoles de tous bords et les politiques se donnent leur position en disant, est-ce qu'en Meuse, ça pose un problème qu'on dise qu'il y a 2000 hectares qui vont partir sur ce site-là, et qui vont être une des prises de terres agricoles et alimentaires. En fait. Je pense que c'est ça qui est... La question-là, il ne faut pas l'oublier. Si on veut rassembler, c'est une question aussi importante à mettre en avant. Parce qu'au même titre, on le voit, tout ce qui touche un peu autour de l'agriculture, quand on voit aussi le problème des énergies renouvelables, quand on parle de la méthanisation, on nous vend la méthanisation... de manière à dire que c'est une façon, avec les effluents d'élevage et déchets, de produire de l'énergie. En fait, quand on regarde concrètement sur le terrain, les méthaniseurs aujourd'hui, on les alimente avec des cultures de maïs qu'on utilise uniquement pour ça, et puis pour l'élevage, et puis pour l'alimentation humaine, et voilà quoi.
On demandait en quoi ça peut impacter les paysans hors zone que l'Andra ait racheté des terres, alors je ne sais pas si c'est trois fois, deux fois ou une fois et demi le prix de ce qu'elles étaient normalement. Pour un agriculteur, par exemple, qui veut transmettre sa ferme à son neveu, on va dire il a 50 hectares qu'il a en propriété et 50 hectares qu'il loue à des propriétaires autres. Il va devoir, quand il va transmettre sa ferme, négocier avec les propriétaires pour savoir est-ce qu'ils veulent relouer à son neveu. Bon, à ce moment-là, peut-être qu'il y a la moitié des propriétaires qui vont dire nous, non, on n'a plus rien à faire d'avoir ces terres-là, on veut les vendre. Et comme l'Andra a racheté des terres deux fois le prix à côté, bah nous on va les vendre aussi deux fois le prix. Et là l'agriculteur qui veut transmettre, il n'a pas les moyens financiers pour acheter les terres qu'il exploitait. Et donc il va y avoir une partie de sa ferme qui sera plus pour lui, peut-être qu'il va partir à un voisin plus gros à côté qui lui aura les moyens d'acheter, ou qui va être divisé entre plusieurs autres fermes. Donc voilà le problème typique que ça peut poser pour les agriculteurs dans toute la Haute-Marne, parce que le prix du foncier, ça commence ici, mais si les propriétaires entendent parler à 50 km, à 80 km, à 100 km, 200 km, que le prix a augmenté autant ici, ils vont chercher à faire monter les prix, donc ça va impacter tôt ou tard l'ensemble du département, voire de la région, quoi.
Moi, j'allais ajouter que quand même les agriculteurs, ils ont quand même un bel outil pour lutter, c'est un tracteur.
On a vu à Nantes des manifestations avec je sais pas combien de tracteurs et ça fait vraiment quelque chose dans la manifestation, ça. 125.
au 7 juin, vous étiez combien?
On en avait 8. 7.
Bon,
8.
Allez.
Ah, mais c'est très bien, c'est très bien. On a commencé comme ça aussi. Hein.
Ouais. N'empêche que ça a fichu la trouille à ceux qui gardaient les grilles de l'Andra.
Et les 8 tracteurs qui étaient là, ça a impressionné tous les agriculteurs, parce que les 8 tracteurs, il y en avait quand même très peu qui étaient du coin. Il y en avait un qui était vraiment dans la zone très proche, un deuxième pas très loin, et les autres venaient d'un peu plus loin. Et les agriculteurs du coin qui ont vu ces tracteurs-là, ça les a un petit peu scotchés. Et on a eu des témoignages comme quoi les grilles de l'Andra ne tiendraient vraiment pas longtemps avec un tracteur d'ici, quoi. Enfin, vraiment.
Ils sont en première ligne, c'est pas forcément à eux de prendre le plus de risques. On a vu ça chez nous, un mec a reculé son tracteur entre les manifestants et les flics, et ben il a été emmené au tribunal pour son tracteur était une arme par destination, soi-disant.
Concrètement, par quelle voie on peut mobiliser les autres agriculteurs? C'est ça la question de fond. Comment on mobilise les agriculteurs hors zone? C'est ça le pouvoir. Il est là. Comment on mobilise les autres agriculteurs hors zone, quoi? Non, mais comment on s'adresse à tous les autres qui ne sont pas de cette zone-là, qui n'ont pas été concernés par ce projet-là, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain? C'est comment on mobilise tous les autres. Et c'est ceux-là qui vont amener le rapport de force. Et sur des questions, disparition de 2000 hectares de terres agricoles pour l'avenir, c'est sur des questions larges comme ça. Comment on peut mobiliser les autres sur des questions larges, c'est ça.
Hein. C'est pas non plus complètement impossible de dire que tu peux mobiliser les agriculteurs, même s'ils ont des intérêts avec l'Andra, même s'ils ont accepté des échanges, etc., etc. Il y a un moment où, en fait, le projet, il est tellement énorme, il est tellement complètement dingue, il n'est pas du tout limité à Bure, mais à toute la Meuse, voire plus encore. Il menace tellement absolument tout sur des échelles de temps phénoménales qu'à la fin... oui, il va falloir mobiliser les autres agriculteurs dans le reste de la région, ailleurs en France, etc. Mais même ceux qui aujourd'hui ont accepté, etc., et qui du coup se sont fait diviser, isoler, etc., se concurrencent un peu, il y a un moment, il faut repartir, quoi. Il faut repartir de l'avant essayer d'oublier un petit peu les querelles, les rivalités. Et puis, ben voilà, c'est peut-être pas impossible non plus. Il faut espérer que ça ne le soit pas.
Hein ? Je te souhaite du courage.
Ben, merci.
Parce que là t'as du temps à passer, hein, pour faire ça.
J'en ai beaucoup.
Peut-être qu'il est temps de conclure. Et du coup, merci vraiment à tous ceux qui sont venus des villages, exploitants agricoles, paysans de la ZAD, Notre-Dame-des-Landes, responsables de la CONF, gens du campement, et tous habitants d'ici et d'ailleurs.
MCLU, ma gueule, plus Bure sera la chute. ZSR Crew, ABZL, trou du cul du monde.
Des maths, on sature l'air. J'espère que t'as mis la VMC.
Tous terroristes ou bien.
Si j'étais
les terroristes. Je constituerai la liste de ces groupes capitalistes qui rendent nos visages chitris. Je les étudierai un par un pour les connaître aussi bien que les cinq doigts qui forment ma main et qui s'abattra demain sur leurs normes arriérées, leurs barrières imposées, leurs frontières inventées, leurs critères dépassés. Qui fait qu'on hurle la nuit tout en se mourant d'ennui, sans comprendre ce qui nous nuit et qu'on gémit sans un bruit. Sans un bruit, je rentrerai dans leur pavillon doré. Dorénavant, c'est trop tard pour qu'on puisse les pardonner. Alors j'armerai la ferraille qui explosera leur entraille. Mais je fêterai leurs funérailles, leurs cadavres comme un feu de paille. Mais j'avancerai vaille que vaille, sans jamais laisser de faille pour qu'ils puissent échapper ou encore téléphoner à ces bleus et cervelés qui risqueraient de ramasser si jamais ils se pointaient, car ma haine est survoltée.
Ils ont tué, pillé, rasé, violé, aliéné, déraciné, enchaîné, stigmatisé. Ils ont transmis la douleur, la méfiance, la peur de l'autre comme leitmotiv à la télé. Ils ont fait de nous des chiens, des loups, endormis ou enragés, indifférents ou déchaînés, avec un seul rêve commun, celui d'échapper à ce massacre, à ce monde trop près, amer, gris et âcre. Et ils s'insurgent tous ces Charlie, et ils s'étonnent tous ces Charlots, qu'on ait envie de poser des bombes, qu'on ait envie de changer les choses, je voudrais leur en glisser une petite. On est tous terroristes. Je te parle de la mémé qui tourne la tête quand elle croise un clodo, du mec qui bouge ses chips en mettant la guerre au Mali. Je te parle du fils qui para dans l'uniforme, qui change des yeux une nouvelle croix, assume et trace ses sales normes. Je te parle de moi qui lui crache à la gueule et lui jette un cocktail, bien assis au soleil ou déchaîné dans les ténèbres. On est tous terroristes.
Peut-être bien qu'il est trop tôt, mais y'a la gâchette qui me démange. On peut jouer au toto, mais là y'a un truc qui me dérange. On prépare des émeutes, et faut voir les tôles qu'on se mange. Et après par petits paquets, derrière des loquets, on nous rend ça engrange. Frustration, radicalisation, on va pas se contenter des cailloux pour buter l'état nation. Ok, y'a la petite voix qui nous dit de faire attention, mais il est pas question de lâcher et d'accepter la rédemption. Tout le problème est là, et c'est en lui qu'on surnage, qu'on menace de soyer trop amarré dans nos adages. Tout seul ou en groupe, on rêve d'exploser les cages, mais on sait bien qu'au long qu'on est, la vraie vengeance n'est qu'un mirage. Alors ouais, faut se regrouper et tisser les liens, de proche en proche, essayer de pas perdre de vue les siens. Construire l'autonomie et les mises en commun, et faire comprendre que c'est par la confrontation directe qu'on y vient.
Si j'étais citoyenne, je te dirais d'aller voter. Si j'étais une pacifiste, je te dirais bien d'encaisser. Mais sale gosse comme je suis, j'ai choisi le terrorisme, histoire d'être un bon kiss ou un bien joli séisme. Je préfère m'infiltrer dans des lieux bien protégés et partir aussitôt sur la roue du saccage. Au régime de la peur, je répondrai par la rage, me grisant des moments où je les ferai tous trembler. J'ai voulu la terre brûler comme dernière stratégie, et l'hurlement de leur meurtrie comme une unique mélodie. Les relents de leur haine embraseront mes canons et feront adorer certains types de combustion. Alors quand je laissais là, tous en train de baliser, ça me fait vivre et mon cœur en devient limite toxicomane. Je leur ferai payer nos larmes et le sang de nos blessés, au décuple, au centuple, mais leur bien ça dans le crâne.
Si j'étais terroriste, j'inculquerais dès la naissance le respect de la hiérarchie et l'amour de l'obéissance. Pour tous les individus, laissant sur le territoire, je prendrai les devants pour contrôler leur trajectoire. Je les élèverai dans la peur du futur et de leur différence, dans le stress permanent de l'échec et de la concurrence. Je les ferai grandir dans l'ignorance de leur corps, de leur histoire, de leur mémoire, de tout ce dont ils sont capables. Et encore, je les ferai se battre entre eux sur le marché du travail, ou bien se trouer la peau sur tous les champs de bataille. Je les maintiendrai dans la peur de perdre le peu qu'ils ont gagné. Je les embarquerai de force sur l'autoroute du progrès. Je les ferai vivre dans des villes en compétition mondiale. Je leur entrerai dans la tête mon empire du moindre mal. Je leur dirai qu'ailleurs c'est pire, qu'ici ça va c'est bien, que la vie se résume à gagner son pain quotidien. De toute façon c'est comme ça, there is no alternative. Qui veut revenir à la bougie, qui s'en prend la locomotive. Si j'étais terroriste, j'augmenterais le taux de dépendance à la machine industrielle dépossédant les existences. J'disséminerais dans les crânes le poison des addictions, la création des besoins, les désirs de consommation. Je fermerai le champ des possibles en développant la filiale nucléaire. J'accrocherai au cou des enfants des petits compteurs GGR. Je me rendrai indispensable aux quatre coins de la planète. Je vendrai les substances qui toucheront ta santé mentale. L'État, l'économie marchande, terrorisme d'État, terreur économique, obstacle à une vie libre et digne. Unis on brise la peur, ensemble on prend de la force, reprenons nos vies en main.
Ton bur sort ce déchet nucléaire, direction l'Andra, cisaille affûtée, barbelé coupé pour tout faire cramer. Triste sort, nucléaire est notre affaire, génocide légalisé sous les regards de la télé. On dit terroriste, une logique sinistre, répéter une bombe à radiation pensée. Plus beaucoup de printemps, t'attends la poudre d'antan. Allume les condés, réglez ça radicalement. Terroriste d'état, un pas trop charismatique et sympathique. Tac boum quand je ferai péter l'Andra.
Et sympathique tac boum quand on fera péter l'Andra.
Si c'est certes, VMC, les ZL, putain de réseau terroriste, ma gueule. Ici la bande de Gazad, ya, n'importe Nawak, ya. J'ai mis le contact dans une voiture piégée. Tiens là que je te coupe le groupe électrogène, que je te brise ta centrale, ta campagne électorale. Atteinte au cœur, au corps, à la morale. Attentat, suicide collectif, à tous les indicatifs. Sortez les ceintures d'explosifs. Je suis venu buter les innocents au hasard. Nécrophiles cherchent plan récup de cadavres. J'ai pris des cours de pilotage, je me suis branché sur des prises d'otages. Détruit le visage de bâtard d'huile avec des bouteilles de gaz, d'acide et d'huile, les cocktails d'armes chimiques, car la clinique, tous pris de panique oblige. J'entends déjà les cris, le souffle des radiations, les chairs qui grillent. Repérage avec des drones, des ULM, les avions s'écraseront sur les instants nucléaires de base.
C'est par le groupe ZSR. C'était donc un. Pour conclure cette discussion qui a lieu donc cet été sur le camp de Bure autour de ce projet funeste d'enfouissement des déchets nucléaires dans la Meuse. Quelques petits messages pour conclure. D'abord, pour vous dire que la prise de son de ces discussions a été assurée cet été par le groupe Automédia du camp VMC, c'était Joël qui était opérateur, c'était lui qui prenait le son. Joël, c'est notre camarade de Fréquence Paris Pluriel, l'émission Actu des Luttes. Voilà. Un petit clin d'œil aussi à Radio Klaxon, qui est donc la radio de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, puisque l'équipe de Radio Klaxon était présente cet été à Bure. Ils avaient amené leur matériel et on a pu assurer pendant toute la durée du camp, l'émission sur la FM, une petite radio pirate qui s'appelait Radio Active, évidemment. Donc merci à eux, c'était super. Pour vous dire aussi que, à la suite de ces discussions sur les enjeux fonciers des luttes de territoire, le 15 novembre dernier, hein, notez bien la date, c'était donc le 15 novembre, à Bure, c'était pas facile de maintenir la date, mais finalement elle s'est maintenue. A eu lieu une petite manifestation genre tracto-vélo meusienne. C'était les semi-radieux. En fait, il s'agissait en fait de manifester autour du laboratoire de l'Andra. Et à cette occasion, un des champs appartenant à l'Andra a été ensemencé joyeusement par des semis. Et donc je pense que c'est cette action qui a mobilisé 200-300 personnes sur place. On amènera sûrement d'autres. Si vous voulez en savoir plus et pourquoi pas vous-même vous rendre sur place pour raffermir la lutte, vous pouvez vous rendre à Bure à la maison de la résistance, hein, le village est tout petit donc il n'y a aucun problème, c'est indiqué, vous trouverez facilement. Et sinon sur internet vous pouvez vous renseigner sur Bure Zone Libre et la coordination Bure Stop, hein, qui coordonne un petit peu l'opposition locale sur place. Voilà pour vous dire aussi que à propos de ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes, évidemment, comme je vous dis tout à l'heure en introduction, il y a énormément d'actions, de mobilisation, de solidarité sur les personnes menacées d'expulsion. Donc le procès a eu lieu mercredi à Nantes et le verdict est attendu le lundi 25 janvier. Donc il faut s'attendre évidemment que ce jour-là, énormément de choses se dérouleront dans toute la France pour les soutenir. À Paris, ce qui nous concerne, c'est que samedi, donc demain, aura lieu à 15h une manifestation justement de soutien à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes sur cet enjeu d'aéroport. Ce sera à Ménilmontant. Et juste avant, en fait, à partir de 12h, si ça vous concerne aussi, ça nous concerne tous, c'est un banquier contre l'état d'urgence, puisqu'il y a un collectif qui s'est monté à la suite des événements derniers pour dénoncer cette saloperie d'état d'urgence. Donc ça se passe à Ménilmontant. Il y a donc un banquier, prix libre, énormément de gens. Il y aura des prises de parole. Vous pouvez vous y rendre dès 12h donc à Ménilmontant. Et ensuite, à 15h, la manif partira jusqu'à Bastille. Voilà pour tout. J'ai pas noté d'autres choses dans l'agenda. Il y a sans beaucoup de choses à dire. J'ai pas pu le faire à temps. Sur ce, écoute, Amanda, qu'est-ce que t'en penses? On va relancer un petit morceau de musique et oui, vous donnez rendez-vous dans 15 jours. Peut-être dire un petit peu de quoi il va se passer dans 15 jours.
Oui, alors dans 15 jours, il sera question d'expression, de liberté d'expression, avec une interview du réalisateur Malik Bensmaïl pour son film Contre-pouvoir qui sort dans les salles le mercredi 27 janvier. Donc on sera deux jours après la sortie du film. Donc voilà, donc ça, c'est un documentaire réalisé au sein du quotidien El Watan, un quotidien qui est diffusé à plus de 100 000 exemplaires, dans les 130-140 000 exemplaires en Algérie. Voilà, donc on verra un petit peu comment fonctionne la liberté d'expression en Algérie.
Voilà, et on peut déjà vous annoncer que dans un mois, parce que c'est super rare que les amis d'Orwell arrivent à prévoir à l'avance les thèmes des émissions et vous l'annoncer, donc on va en profiter. Et donc dans un mois, ce sera le 12 février, si je ne m'abuse. Nous recevrons des personnes de Cadécole, la caisse de défense collective de la région parisienne, qui vont sortir, le bouquin je crois qu'il est déjà sorti, c'est donc une réédition de Face à la justice, face à la police, ou l'inverse, je ne sais plus. Donc un guide juridique béton pour les militants, pour les résistants, qui donc sera analysé avec nous par un ou plusieurs membres de Cadécole. Donc on va évidemment parler de l'état d'urgence, et des tout ce qui s'en suit sur les dispositions antiterroristes, mais surtout par l'éclairage de ce livre, donc qui pourra évidemment servir à beaucoup de monde. Dans les jours et les semaines qui viennent, il y aura sûrement pas mal de mobilisation et donc beaucoup de répression. Ce sera donc le 12 février dans les Amis d'Orwell, dans un mois.
Et il est bon aussi de rappeler que vous pouvez réécouter toutes les émissions des Amis d'Orwell sur le site souriez.info. C'est le site de Souriez Vous Êtes Filmé, puisque les Amis d'Orwell, c'est l'émission de Souriez Vous Êtes Filmé.
Et puis il faut rappeler aussi que la Radio Libertaire, c'est donc la radio de la Fédération Anarchiste. Et que, voilà, on va vous relayer ce numéro de téléphone du studio 01 43 71 89 40. Et pourquoi pas, c'est le numéro de public aussi à la librairie de la Fédération 01 48 05 34 08. Voilà, merci de votre attention.
Donc on se quitte avec deux morceaux de musique qui viennent de Bure aussi. Hein.
Ouais, c'est encore des chansons interprétées par les chorales pendant le camp. Voilà.
Et le morceau de rap qu'on a entendu juste avant de reprendre l'antenne, c'était quoi ?
Alors franchement, j'ai pas beaucoup de références. C'était effectivement les morceaux qui tournaient là-bas sur le camp cet été. Je pense que c'est un groupe local de Nancy qui a écrit donc cette ode à la machinerie nucléaire. Voilà, c'était ZSR.
Alors on se retrouve dans 15 jours.
Qui déteste la guerre, je suis fille de forçat, criminel évadé, et fille du roi, trop pauvre à marier, fille de coureurs des bois et de contrebandières, enfant des sept nations et fille d'aventurière, métisse sans mêlée, bien qu'on me l'ait caché, c'est un sujet de honte, j'en ferai ma fierté. C'est un sujet de honte, j'en ferai ma fierté. La 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 la. Mais sachez que jamais je n'ai courbé les chines. Non, je suis restée droite là devant les patrons. Même le jour où ils ont passé la conscription, je suis des paysannes et fille d'ouvrières. Je ne prends pas les armes contre d'autres affamés. Je ne prends pas les armes contre d'autres affamés. La 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 la. Ce n'était pas ma guerre, alors j'ai déserté. J'ai fui dans les forêts, je m'y suis caché, refusant de servir de chair à canon, refusant de mourir au loin pour la nation. Une nation qui ne fut jamais vraiment la mienne, une alliance forcée de misère et de peine, celle du génocide de la nation, celle de l'esclavage et des déportations, celle de l'esclavage et des déportations. La 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 la. Pas la croix, l'une est pour les curés, et l'autre est pour les rois.